10 minutes chronique. Viva Culture a fêté ses 5 ans d'antenne sur Westrack Radio en mai dernier. Et aujourd'hui, c'est la 125e émission de 10 minutes chronique. Alors, pour célébrer ce double anniversaire, et comme nous entamons notre saison d'été, je propose un retour vers le premier thème de 10 minutes chronique de ce 14 mai 2017, Los Angeles. De juillet à août, arpentons l'espace de la ville, les plages, les autoroutes, les hôtels, Hollywood, mais aussi butinons dans ce qui fait l'histoire de Los Angeles. Pour commencer en douceur, voici un rappel de la première émission d'il y a 5 ans. Dans l'avion qui me ramenait de Los Angeles, je me suis dit que je n'avais rien vu. Ça avait été un éblouissement et finalement un aveuglement. Est-ce que c'était l'éclat turquoise de l'océan Pacifique sous la vibration du soleil? Est-ce que c'était le fourmillement bariolé des touristes dans les rues piétonnes de Santa Monica? La fascination du luxe dans Beverly Hills ou Hollywood, ce grand cirque? Los Angeles, une ville qui fait rêver le monde. Pourtant, c'est un endroit terriblement dur où chacun, de manière différente et pour des raisons différentes, se bat chaque jour. La mégalopole de Los Angeles est le royaume de l'illusion et du factice. Pas seulement à cause de l'industrie du cinéma, mais parce que la ville elle-même est mise en scène, peut-être pour oublier la menace permanente de tremblements de terre, d'incendies de forêt, et aussi pour repousser le souvenir des émeutes de 1992. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'elle fascine les artistes et inspire les écrivains. Los Angeles provoque l'imaginaire, comme une machine à inventer des histoires. Elle est devenue depuis longtemps dans les esprits et dans les regards une fiction. C'est une vidéo surexposée, un roman fleuve, où se mêlent les mots villa, colline, palmier, incendie, piscine, coyote, Bel Air, Beverly Hills, gang, crime, alarme. Star, Hollywood, paparazzi, scandale, rumeur, espoir, déception, émeute, insécurité, cocktail. On y ressent une intense brutalité urbaine et la beauté trompeuse de la cité des anges. Toutes ces images se confondent dans les couleurs dynamisantes du pop art et les ombres mouvantes de l'art vidéo, en montrant la folie et la dérive. On comprend alors pourquoi réalisateurs, écrivains, artistes ont créé des œuvres qui ont pour cadre Los Angeles. Aujourd'hui, premier épisode, à travers la ville. Écoutons un extrait de Los Angeles Espace Augmenté de Charles Joseph, où l'on comprend que Los Angeles, c'est une surface de 88 000 km² et qu'on n'y flâne pas comme partout ailleurs. L'homme plongé au sein de ce labyrinthe des temps modernes n'est qu'un point parmi d'autres. Pour appréhender Los Angeles dans sa globalité, le déplacement est nécessaire. Nécessaire mais cependant insuffisant. Appréhender la ville dans son intégralité implique une décision toute personnelle, celle de parcourir la ville par des axes et des moyens subsidiaires. Sinon, la ville se tient à distance, elle se tient à l'écart. C'est la mobilité qui révèle l'espace de la ville. On ne peut se passer à Los Angeles de la voiture. Elle est essentielle à l'habitant, autant qu'à la ville. Sans l'automobile, Los Angeles n'existerait pas. La ville doit d'ailleurs son développement exponentiel aux gigantesques autoroutes qui la desservent. Mais être propriétaire d'une voiture ne signifie pas que l'on maîtrise l'espace de la ville pour autant. Les déplacements se font sur les autoroutes, énormes artères déversant un flot continu d'angelenos dans leurs déplacements quotidiens. Ces autoroutes sont soit en hauteur, passant au-dessus des habitations de la ville, soit à leur niveau, mais elles sont alors encadrées de murs de béton de plusieurs mètres de haut, occultant tout champ de vision possible, si bien que l'on ne peut pas savoir où l'on se trouve dans la ville, en dehors des panneaux de signalisation, nous indiquant le nom des sorties. Utiliser les autoroutes Angelenas revient à se déplacer d'un point A à un point B en occultant toute représentation urbaine en dehors de ces deux points. Les autoroutes permettent un déplacement rapide, mais n'impliquent pas une meilleure connaissance de la ville. Le conducteur doit faire le choix de prendre le temps d'explorer la ville pour voir la ville. La mobilité est le facteur qui révélera la ville pour ce qu'elle est, mais cette mobilité doit être accompagnée d'une réelle volonté d'apprécier la ville pour ce qu'elle est. Plusieurs auteurs, comme Vanda Coleman, rappellent également que mobilité rime avec pouvoir à Los Angeles. En 1991, elle publie un poème intitulé « Je vis pour ma voiture ». Je ne peux pas m'en séparer. Vivre, c'est conduire. La manœuvrer en douceur, parfaitement. Me lever le matin et la faire démarrer. Ma voiture est une nécessité absolue dans cette ville de voitures où on apprend à connaître les gens par leur façon de se déplacer sur l'autoroute. Je vis pour ça, je ne peux pas m'en séparer. Conduire, c'est vivre. Vivre signifie conduire et vice-versa. Le déplacement est vital et l'immobilité signifie la mort. Ne pas avoir de voiture signifie se raccrocher au système de transport en commun réputé pour être très défaillant. Pourtant, si ces modes de transport sont négligés pour un usage quotidien, car trop imprévisibles ou pas assez nombreux, ils sont particulièrement propices à la flânerie, activité que l'on pense impossible dans une ville comme Los Angeles, en dehors des plages qui bordent la ville. Mais bus et métro impliquent une relation différente à l'espace et surtout une relation différente au temps. La proximité entre l'observateur et la ville y est sans pareil. À bord du métro, il parcourt la ville empruntant des chemins de traverses inédits, au plus proche des habitations et autres quartiers qu'ils ne connaissent que de nom. Traversant successivement les ghettos de la ville, les espaces industriels, le centre des affaires, les quartiers résidentiels, les quartiers chinois, japonais, hispaniques, les parcs et les cimetières, on voit que tous ces espaces se répondent et se combinent, loin du cloisonnement que l'on imagine habituellement. Littérature est le témoin de cette particularité où dans les écrits, fictions ou essais, chaque auteur ne peut échapper à l'évocation de l'espace de la ville, à son organisation. Voici un extrait de Video Green de Chris Krause, écrivaine, réalisatrice et scénariste américaine. Je me suis retrouvée à l'angle d'El Segundo et Douglas la semaine dernière et ça ne pouvait pas être plus laid. Il y a 6 voies de circulation et des trottoirs blancs et étroits sur lesquels personne ne pose un pied puisque les centres commerciaux sont tellement éloignés que vous devez vous y rendre en voiture. Comme souvent à L.A., l'espace est interstitiel, un ensemble compact de commerces, de détails et d'entrepôts de quelques étages seulement. Construit à bas coût, lot après lot, il y a un demi-siècle, lorsque c'était encore rentable. Pour finir, tout cela sera passé au bulldozer et unifié. Écoutons maintenant un extrait de Slow Fade, un essai de Rudy Wurlitzer, romancier et scénariste américain. La BMW s'éloigna du trottoir en direction de l'autoroute de San Diego, et Walker remarqua la conductrice pour la première fois. Elle portait des lunettes de soleil sur un mince visage sensuel, et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière par un chignon. Elle passa devant l'autoroute et tourna au nord sur la Brea Avenue. C'était le soir et ils passèrent devant une rangée d'immeubles et de bureaux qui n'existaient pas il y a 2 ans, avant d'atteindre le brouillard et les ombres noires des collines d'Hollywood. Et dans un grand effort qui lui causa un léger bégaiement, il demanda si son père avait déménagé. « Il vit encore à Mulholland, » répondit-elle, d'une voix douce et non professionnelle. « Il voulait que je vous emmène à l'observatoire Griffith avant de rentrer à la maison. » Il a dit que vous pourriez être déphasé ou désaccordé ou autre, et que vous auriez besoin d'un peu de temps. Il m'a donné une liste d'instructions pour votre retour. Je n'en doute pas, répondit Walker. Et nous terminons avec un dernier extrait tiré d'un livre d'Annette Leady, romancière et critique d'art américaine. Earth, Steel. Le tramway tout blanc s'approcha de la gare, et elle se dit qu'en raison de l'absence de panneaux d'affichage, de panneaux publicitaires ou d'images commerciales, il pourrait s'agir de n'importe quel endroit dans le monde, mais véritablement d'aucun endroit au monde, vraiment, hormis un musée à Los Angeles ou le lieu d'un film d'anticipation. Maintenant le futur est là, pensa-t-elle, et ce n'est pas une expérience blanche, artistiquement conduite, simplement dérangeante, mais encore quelque chose d'inexplicablement amusant, comme une blague sous la forme d'un événement. Les portes du tramway s'ouvrirent et elle entra enfin dans la voiture jusqu'à son siège favori, tourné vers l'arrière, car elle aimait observer les rails apparaître lorsque le tram grimpait dans la montagne. Le tramway du musée du temps présent remontait la colline plus lentement que l'architecture ne l'avait prévu. Il était censé être plus rapide, mais émettait à pleine vitesse un son aigu qui tourmentait les résidents des communautés environnantes. On avait donc accepté de le ralentir, ce qui en faisait plutôt un funiculaire, offrant une vue sur les propriétés des gens riches qui vivaient sur le flanc opposé de la montagne. Les piscines perçaient ici et là, et on voyait même un vignoble. C'est ainsi que je vous quitte aujourd'hui, en précisant que les ouvrages cités de Chris Krauss, Rudy Wurlitzer et Annette Leady ne sont pas publiés en France. Il ne fallait pas pour autant se priver d'en entendre quelques passages. Ils ont été traduits par Émilie Noteris à l'occasion de l'exposition Los Angeles, une fiction, en 2017, au MAC de Lyon. Rendez-vous le 17 juillet pour un nouveau numéro de 10 minutes chroniques sur Westrac Radio dans Viva Culture.